Europe 1.
Vous écoutez Bienfait pour vous sur Europe 1, on vous accompagne avec un grand plaisir jusqu'à midi et comme tous les jours, on va ouvrir cette émission avec la chronique de Clément Lanoux. Aujourd'hui, il a réfléchi au sujet du désir d'enfant et les moyens pour booster sa fertilité. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, chronique sur le désir d'enfant et en tant que grand journaliste d'Europe 1, évidemment, j'ai tapé « Comment désirer un enfant » sur mon ordi. Là, le GIGN a débarqué chez moi, garde à vue, ordi confisqué, partage de cellules avec Christian Quesada. Bref, tout est finalement rentré dans l'ordre quelques jours après. Alors je préfère être très précis sur le sujet, ma chronique ce sera sur le désir d'avoir un enfant. Oui, voilà, bien. C'est important de préciser. Alors d'où vient ce désir? Je pense que la peur de vieillir y est peut-être pour quelque chose, de se dire un jour disparaître sans laisser de traces et du coup l'envie de se reproduire, le mot est intéressant, se produire de nouveau, se reproduire. Moi je n'ai pas ce désir-là, en revanche je me produis de nouveau en spectacle en Normandie le week-end prochain.
Oui, c'est bon.
Mais bon voilà, ça c'est la promo, revenons à l'essentiel. D'où vient ce désir accentué souvent par une pression sociale, un oncle qui arrive en disant « bah alors c'est pour quand? On n'a pas d'enfant ?» Là, hein, qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est vrai que passé 35 ans, on arrive à distinguer clairement deux types de personnes, ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. On a parfois même du mal à l'évoquer avec ceux qui n'en ont pas, en se disant est-ce que c'est un choix ? Est-ce qu'ils n'y arrivent pas ? Est-ce qu'ils n'en veulent pas ? C'est très délicat. Alors, je mets tout le monde à l'aise, moi j'en ai pas, mais proposez-moi, mes amis, comme un café. T'en veux ? T'en veux pas ? Je vous dirais, hein, oui, oh, bah, un garçon, une fille, sans sucre. Non, ça va, franchement, tout va bien. Alors, le plus flippant, c'est quand tu en veux, voilà, mais que tu as une trentaine et que tu es célibataire. Là, chaque rendez-vous galant, chaque date Tinder devient une chasse à l'homme. C'est vrai qu'on n'est plus un mec d'un soir, on devient un potentiel géniteur et la pression est énorme pour nous. Petite mise en situation, moi j'arrive comme ça, je me pose un rendez-vous, je suis content. Et puis je rentre directement dans le vif du sujet parce qu'on a quand même tous le même objectif, passer la fin de la soirée ensemble. Donc nous on est plus direct, par exemple nous les garçons on va plutôt dire « Bon allez, vous savez quoi ? On se permet tout, on se pose une question chacune et on répond, d'accord ? Chacun une question et on y va. Allez, c'est parti. Je commence, tu commences ? Je commence ?
Ouais.
Ok, je dis. Je sais pas, l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour. Et toi ? Je sais pas, si t'avais une fille, tu l'appellerais comment ? Ok, hein ? Là, je déclenche ça. La petite alerte désir d'enfant. Alerte désir d'enfant en face de moi. Ok, on revient au basique, on revient au rendez-vous. On reprend avec... Tu fais quoi dans la vie ? Je bosse dans une crèche. Ah, ok. Donc, ok. Donc là, dans ma tête, dans mon cerveau, je dis comment éviter le sujet. Utilisons l'humour. On va botter en touche. Ah, dans une crèche. Et ils sont sympas les rois mages. Ok, humour raté. Pardon, non, parce que je suis humoriste. Moi, je travaille pour Europe 1. Ouais, je fais une petite chronique en début d'émission. Bien fait pour vous. Bah, c'est une émission, sur la santé. Tiens, d'ailleurs, demain, on reçoit un gynéco obstétricien spécialiste de la PMA et puis la rédactrice en chef de Magique Maman. Ok, j'ai redéclenché moi-même l'alarme. Non, je veux pas l'enfant. Je veux pas l'enfant. C'est pas ce que je disais. Oh, c'est dur. Ces histoires de signaux, c'est tellement sensible comme sujet. Et le pire, c'est quand on est en couple et qu'on n'en parle pas. On craint cette phrase. On est ensemble depuis des années, on n'a jamais parlé. Un jour, on entend « je crois que j'ai du retard ». C'est vrai que « je crois que j'ai du retard », ça peut être un cadeau comme une très mauvaise surprise. Moi, pour moi, cette phrase, c'était juste une excuse quand on arrive en retard au boulot, par exemple. Et je rassure ma chérie en disant « non, mais ça va, il y a Castex à la RATP. Maintenant, tu n'auras plus jamais de retard, ça va changer. » Voilà. Et puis après, il y a une autre catégorie de personnes que j'aimerais aborder, c'est ceux qui compensent avec un animal. J'ai des amis comme ça qui n'ont pas d'enfants, qui en voudraient, qui du coup compensent avec le chat.
Ouais. Ça, on le voit. Vous avez un chat d'ailleurs.
J'ai un chat. Ouais. C'est vrai que je fais partie de cette catégorie. Et, oui. Et c'est vrai que quand je parle de lui, je dis oh, ben ça, c'est croquettes, elles vont faire plaisir à mon grand. Ouais, c'est bizarre. Et puis ma chérie l'a inscrit au lycée la semaine dernière, mais Henri IV. Voilà, vanne de gens qui ont des chats. Et non, j'ai tellement envie qu'il soit heureux, mon chat, que j'ai tapé l'autre jour sur Internet comment donner du plaisir à son chat. Le GIGN est revenu, voilà. Et tiens, d'ailleurs, ce qui sonne là, c'est mon bracelet électronique depuis tout à l'heure. J'ai rendez-vous à 11h15 à la santé, je vous laisse.
Merci beaucoup, Clément Lanoux. Allez, on va maintenant donner la parole plus sérieusement
avec
nos invités du jour sur cette question : peut-on booster sa fertilité ? On va en parler déjà avec vous, Claire Schneider. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Magique Maman, notre partenaire sur ce dossier. Et donc, dans ce dernier numéro qui est en kiosque en ce moment, il y a justement un dossier sur la conception, le désir d'enfant. Avec nous également le professeur François Oliven.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes gynécologue obstétricien et pas gastro-entérologue,
ouais,
comme
va,
le
Mélanie.
Disait Julien tout à l'heure. Spécialiste donc en PMA, procréation médicalement assistée. Et vous venez de publier ce livre, 1001 bébés, qui est paru chez Grasset. Alors on va commencer avec vous, professeur. Environ un couple sur quatre, je crois que c'est les chiffres, sont concernés par des problèmes d'infertilité. Pourquoi c'est aussi fréquent? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en évolution et pas dans le bon sens? Est-ce qu'il y a de plus en plus de couples qui rencontrent ce genre de problème?
Alors, de plus en plus de couples, probablement, mais disons que c'est surtout lié au décalage de l'âge où les gens font des enfants. Donc, les femmes font des enfants de plus en plus tard, et malheureusement, il y a une injustice de la vie, c'est que la fertilité de la femme baisse avec le temps. L'espérance de vie de la femme a été multipliée par 2 en 100 ans, mais pas l'espérance de vie de ses ovaires, qui reste un peu bloquée à partir de 37, 40 ans. Ça devient difficile d'avoir un enfant. Et la deuxième cause, c'est qu'il y a beaucoup de divorces, des nouvelles unions. Mmh. Et donc, dans ces nouvelles unions, les gens veulent faire éventuellement une nouvelle famille, mais évidemment, avec 15 ou 20 ans plus tard. Et mmh. voilà un peu les... Aujourd'hui, le vrai problème, c'est ça.
D'accord. Dites-moi, Claire, les problèmes de fertilité, on vient d'en parler, ça concerne pas mal les femmes, mais les hommes aussi hein, sont concernés autant que les femmes, mais peut-être moins. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
On a eu tendance à penser que l'infertilité, c'était qu'une affaire de femmes. Or, justement, parce que comme le soulignait le professeur Oliven, comme les hommes peuvent faire des enfants plus tard, on pensait qu'ils étaient moins concernés, mais pourtant, ils sont aussi atteints de troubles de la fertilité. Une cause masculine isolée ou associée à une cause féminine peut être identifiée dans 70% des cas d'infertilité. Donc, en revanche, on remarque souvent quand un couple n'arrive pas à faire d'enfant au bout de plusieurs mois, c'est souvent la femme qui va consulter seule. Mmh. Donc, les hommes sont moins examinés, peut-être moins aussi
diagnostiqués
et au fait de, voilà, des choses à faire pour préserver leur fertilité.
Professeur Olivier, on lit dans votre livre que votre métier de gynécologue obstétricien, c'est évidemment de la médecine, ça c'est certain, mais c'est aussi beaucoup de psychologie, voire même de la thérapie de couple. Vous êtes un homme complet. Hein.
En fait, ce livre, Je voulais raconter des histoires sortant de l'ordinaire. Évidemment, c'est pas mon quotidien. Mon quotidien, c'est des histoires simples. Mais là, j'en ai choisi une vingtaine d'histoires sortant de l'ordinaire qui sont drôles, qui sont cocasses, qui sont
pas toujours, parfois très émouvantes.
Non, il y en a qui sont émouvantes, il y en a qui sont tristes. Mais je voulais, c'est un peu le en thérapie de la PMA. J'ai raconté, je pense qu'il y a très peu de médecins qui ont raconté les coulisses. Chacun peut se mettre à ma place et se demander ce qu'il aurait fait vis-à-vis de ses demandes, parfois abracadabrantes.
En tout cas, on sent beaucoup de pression, non, pour professionnel que vous êtes.
Il y a une pression parce que, vous savez, le désir d'enfant est irrésistible. C'était le nom du premier livre de René Friedman. Et de temps en temps, ce désir, il est un petit peu hors norme. Et surtout, pour les couples, c'est un désespoir quand on n'a pas d'enfant. Comme ça l'aurait été pour moi, je me sens avec beaucoup d'empathie. Et c'est pour ça que j'aime bien ce métier. Mais effectivement, il y a de la psychologie. Parce, d'abord, je viens de dire, beaucoup de femmes aujourd'hui ont plus de 40 ans, ça marche mal. Et du coup, on a beaucoup plus d'échecs qu'on en avait il y a 15 ans. Donc, la consultation, c'est aussi d'essayer de consoler les gens. C'est pas facile.
Claire, est-ce que c'est quelque chose justement que les lecteurs de Magique Maman vous demandent beaucoup, des informations sur l'infertilité, sur les moyens d'augmenter leur chance de concevoir? Ça revient beaucoup dans les thématiques qu'on vous demande de traiter justement?
Alors nous, on accompagne les parents du moment où ils ont une envie d'enfant, du désir d'enfant, jusqu'à ce que leurs enfants soient adolescents. Donc on est vraiment un compagnon pour eux. Donc il est vrai qu'ils nous écrivent de temps en temps pour avoir des conseils. Ils savent qu'on a un réseau d'experts et qu'on fait souvent des sujets là-dessus. Donc en effet, ça arrive. Et on organise également la journée de l'infertilité depuis 9 ans. Donc,
il y aura quoi cette année? Parce que c'est bientôt, hein, c'est du 1er au 6 novembre prochain. Il va se passer quoi, par exemple?
Tout à fait. Alors, comme d'habitude, on aura des tables rondes avec des experts qui seront diffusées tout au long de la semaine sur le site de Magique Maman et nos réseaux sociaux. Donc, il y aura différentes tables rondes, l'accompagnement pendant le parcours d'AMP, l'AMP à l'étranger ou l'influence de l'environnement sur l'infertilité, par exemple.
Très bien. Vous ne bougez pas, on revient très vite. On vous propose ce matin de faire le point ensemble sur les choses qu'il faut faire pour augmenter ses chances de concevoir un bébé, même quand il n'y a pas justement de problème médical particulier. Y a-t-il des astuces, des conseils qui ont fait leur preuve pour booster tout ça? On y répond avec nos invités dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre, c'est tous les matins sur Europe 1 de 11h à midi. Et aujourd'hui, on tente de voir s'il existe véritablement des conseils fiables pour augmenter les chances de concevoir, eh bien, dans un couple, un enfant. On en parle avec Claire Schneider, rédactrice en chef du magazine Magique Maman, notre partenaire sur ce dossier, ainsi qu'avec le professeur François Oliven, gynécologue obstétricien et l'auteur de ce livre « 1001 bébés » qui vient de sortir aux éditions Grasset. Alors professeur, la procréation de manière générale, c'est juste une question d'organes reproducteurs qui fonctionneraient bien ou pas, ou ça peut dépendre de facteurs extérieurs également?
Ah oui, bien sûr, ça dépend de facteurs extérieurs, mais c'est difficile de les mettre en évidence. Ça peut dépendre de la psychologie, ça peut dépendre des facteurs environnementaux. Je sais pas, par exemple, le plus connu, le tabac. détruit les ovaires. On le sait depuis toujours, les femmes qui fument sont ménopausées plus tôt que les femmes qui ne fument pas. Ça peut être des traitements médicaux, je ne sais pas, les traitements du cancer. Donc il y a effectivement le stress. Il y a plusieurs études ont montré que le stress pouvait diminuer les chances de grossesse. Donc l'environnement extérieur a un rôle. Et maintenant, de plus en plus, l'alimentation.
Et la génétique, si, par
exemple. Et la génétique aussi. Oui, on peut être porteur d'une anomalie génétique qu'on a héritée qui empêche la fertilité, bien sûr.
Mais si ma mère, ouais, l'inverse. Ouais, parce que si ma mère, elle a fait plein d'enfants hyper facilement, est-ce que ça veut dire que moi aussi ?
Non, pas forcément. Mmh. Non.
Ça
non, parce que la santé de l'ovaire, ce qu'on appelle la réserve des ovaires, elle est variable d'une femme à l'autre. Elle est influencée par des facteurs qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc, je dis n'importe. Par exemple, votre mère. Elle a eu plein d'enfants, mais si elle a fumé pendant qu'elle était enceinte de vous, elle peut avoir fait en sorte que vos ovaires seront moins bien que les siens. Voilà un exemple caricatural, mais qui montre bien le problème.
Une raison de plus, de bonne raison d'arrêter de fumer. Claire Schneider, dans le dernier numéro de Magique Maman, vous rappelez quelque chose qui est encore assez peu connu, je trouve. En fait, quand on a un projet de bébé, tout simplement même l'idée de l'avoir, ce bébé, il y a une visite préconceptionnelle qui est plus que recommandée. Il y a assez peu de femmes qui la font, ou de couples même. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette visite et pourquoi elle est si importante ?
Alors, en effet, elle est très importante. Une grossesse, ça se prépare. Alors, parfois, ça nous tombe dessus et on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Mais cette visite, elle doit être faite même avant le début des essais bébés. Et elle permet aux femmes de faire un check-up complet, de voir si on est à jour dans les vaccins, de voir, d'avoir des conseils aussi en termes d'hygiène de vie. Voir les antécédents familiaux. Ça permet aussi de débuter une grossesse dans les meilleures conditions et d'éviter aussi des complications éventuellement dans la grossesse. Et n'hésitez pas à y aller à deux, évidemment.
C'est important, mais c'est très peu fait, on est d'accord. Aujourd'hui, on a l'impression que faire un bébé, c'est naturel. Pourquoi on irait consulter avant ?
Moi, j'ai fait le premier guide de ce qu'il faut savoir avant la grossesse, dont l'éditeur s'est très mal occupé.
D'accord, bisous.
Mais effectivement, c'est très important de faire cette consultation et de réfléchir avant la grossesse.
On a une question pour vous, professeur, de Théa, qui habite à Nîmes, sur Instagram. Elle nous dit « Je vais avoir 35 ans, je suis célibataire et je me pose une question. Est-ce que je devrais faire congeler mes œufs maintenant, même si je dois aller à l'étranger ? J'ai peur de regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. »
Alors déjà, premièrement, elle n'est plus obligée d'aller à l'étranger, puisque la loi française a été modifiée. Aujourd'hui, cette congélation de convenance ou sociétale est autorisée.
Même si on n'est pas malade.
Même si on n'est pas malade. Deuxième chose, c'est maintenant ou jamais, parce que 35 ans, c'est la limite. Au-delà de 35 ans, les conservations, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'intérêt, mais ça marche quand même beaucoup moins bien.
Parce que les ovocytes sont en moins bonne qualité, ils
évidemment,
sont plus vieux.
Évidemment, parce qu'en fait, quand on va faire sa congélation, on va avoir un peu les résultats d'une fécondation in vitro. Donc il faudrait, oui, si elle a envie de préserver sa fertilité, c'est maintenant, c'est rapidement, prendre une consultation dans un centre, voir comment sont ses ovaires et éventuellement faire cette congélation.
Claire, dans le magazine justement Magique Maman, vous en parlez de ce chiffre des 35 ans qui serait un peu une barre, une limite. Il y a cette limite, c'est la moyenne on va dire, mais on est d'accord que c'est très variable quand même d'une femme à l'autre.
Oui.
Alors oui, c'est variable, mais comme le disait le professeur, l'âge moyen à la première naissance augmente progressivement. Par exemple, en 1975, les femmes avaient en moyenne un premier enfant à 24 ans, en 2019 à 28,8 ans et en 2021 à 30,9 ans. Donc, on voit que la société change, que les femmes font leurs enfants plus tard, mais l'âge a un impact sur la capacité des femmes à procréer, on le rappelle. Après, en effet, ça dépend des femmes, mais il faut aussi arrêter de croire que quand on voit en effet
Naomi Campbell à 50 ans un bébé,
voilà, il faut pas croire qu'elle a pas eu un coup de pouce ou que ça s'est fait naturellement.
Et il faut pas croire que la PMA règle ce problème d'âge. C'est-à-dire les taux de succès de la PMA, c'est les mêmes que la grossesse naturelle. À 40 ans, nos résultats sont très faibles.
Professeur, est-ce que ça veut dire que on parle de cet âge de 35 ans, c'est presque un peu angoissant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des complications potentielles si on tombe enceinte après 35 ans ?
Non, les complications obstétricales, les complications de la grossesse, c'est plutôt 43, 44, 45.
Ah oui.
C'est juste que on dit toujours, il ne faut pas d'injonction aux femmes à faire des enfants. Moi, je suis d'accord, mais il faut que les femmes soient au courant qu'après 35 ans, ça sera plus dur et que les techniques d'assistance ne les aideront pas forcément.
Quand vous dites plus dur, c'est vraiment une chute brutale
de... Non, c'est progressivement, d'accord. Mais c'est surtout après 40 ans que ça devient difficile. Après, vous avez une technique miracle qui s'appelle le don d'ovocytes, mmh. où on prend l'ovocyte
de quelqu'un
d'une
plus
femme
jeune.
De 25-30 ans, et n'importe quelle femme peut avoir un enfant, quel que soit son âge, mais ça ne sera pas le matériel génétique de la femme.
Bon, Claire, dans le dernier numéro de Magique Maman, vous rappelez quelque chose qui est important pour booster justement ses chances d'avoir un enfant, c'est qu'il faut faire attention à son poids. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on peut être en surpoids ou même trop mince, et ça peut poser problème, hein, c'est ça ?
En effet, il vaut mieux ni être en surpoids, ni avoir un IMC trop faible. Ça peut influer sur la qualité des spermatozoïdes, par exemple, ou réduire les chances chez les femmes en parcours d'AMP. Mais de manière générale, je pense que pour booster ses chances, il faut avoir une hygiène de vie saine. C'est alimentation, activité physique, stress, sommeil. Aujourd'hui, vraiment, on essaye de voir ça dans sa globalité.
Et comme on parle de globalité, professeur, je vais vous parler aussi des hommes. Est-ce qu'un homme, sans problème, apparemment, peut en fait avoir des habitudes de vie qui nuisent également à sa fertilité ?
Bien sûr.
Le tabac aussi ?
Le tabac, l'alcool, la consommation excessive, les sportifs de très haut niveau, les toxiques divers et variés. Mmh. L'alimentation aujourd'hui prend une place de plus en plus. On parle des régimes pro-fertilité. Je vais faire de la pub pour deux petits programmes qui sont pas mal. Je suis dans le comité scientifique, je trouve que c'est assez scientifiquement mené. Ça s'appelle Bidaddy et Bimum, qui analysent en fait l'alimentation, donnent des compléments. Et c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la science qui montre qu'il y a des régimes pro-fertilité.
Il faut manger quoi alors, dites-nous.
Il faut manger, c'est un peu toujours la même chose. Le régime méditerranéen, schématiquement, pas trop de graisse, pas trop de...
Des fruits et légumes.
Des fruits et légumes, etc., des vitamines.
Mais ça joue, c'est-à-dire si je mange de la junk food toute la journée, je vais réduire ma fertilité.
Oui. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des études scientifiques qui le montrent, chez la femme de manière claire, et chez l'homme aussi un petit peu. Et donc, c'est vrai que ça peut être utile de se mettre dans les conditions d'avoir un enfant en optimale. Évitant toutes les nourritures transformées. C'est la même chose que pour tout, en fait.
Eh bien, merci à vous deux. On reste ensemble. On va poursuivre cette exploration de la fertilité au féminin et au masculin. Quand le désir d'enfant est là, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire pour maximiser ses chances d'y parvenir ? On continue d'en parler juste après. Donc, restez bien à l'écoute sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Elle a fait un bébé toute seule.
On peut le faire toute seule, comme Goldman le chante, mais on peut aussi le faire à deux, c'est possible. C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on s'intéresse ce matin à la fertilité. Est-ce qu'il y a des moyens pour la booster, des astuces ? On en parle, on parle pas d'aide médicale à la procréation ce matin, on le fera peut-être bientôt, mais simplement de ces couples sans problème particulier qui voudraient augmenter leur chance d'avoir vite ce bébé qu'ils désirent. C'est un dossier que l'on vous propose en partenariat avec le magazine Magique Maman, dont vous êtes rédactrice en chef, Claire Schneider, et puis avec nous également en studio, le professeur François Oliven, gynécologue obstétricien, spécialiste des questions de fertilité et d'infertilité. Votre livre, c'est 1001 bébés chez Grasset. Grasset. Alors, professeur Oliven, une fois qu'on a déjà mis les choses dont on vient de parler juste avant au clair, c'est-à-dire on a éventuellement arrêté de fumer, on a perdu du poids, on mange bien, on élimine les toxiques, pourquoi on ne peut pas aussi se dire il va falloir peut-être commencer un processus de PMA ? Je veux dire, à partir de quand on peut se dire que c'est problématique, qu'il y a peut-être un problème médical et qu'il faut venir vous voir, justement ?
Alors déjà, première chose, un point non négligeable, il faut avoir des rapports sexuels pour avoir un bébé.
Je sais, ça fait plusieurs fois qu'on fait des émissions ensemble sur ce sujet et à chaque fois vous le rappelez que vous le voyez en consultation, des gens qui viennent et qui n'ont pas assez de rapports.
Qui ont des rapports, je ne sais pas, une fois par semaine. Ce qu'il faut savoir, la femme, elle est féconde une journée par mois. Donc si vous avez des rapports une fois par semaine, vous n'avez qu'une chance sur sept de tomber sur le bon jour. Sauf que l'homme a des spermatozoïdes qui durent 24 à 48 heures. Donc il faut avoir des rapports réguliers, tous les 2-3 jours. Dans la bonne période. Ou utiliser des petits tests d'ovulation de pharmacie qui sont très efficaces. Et à partir de là, commence le compte à rebours. Schématiquement, si le couple est jeune, moins de 35 ans, on va dire qu'au bout d'une année de rapport régulier, il faut consulter. après 35 ans, 36, 37, plutôt 6 mois pour ne pas perdre trop de temps.
Très bien, c'est clair.
On a une question de Maureen sur Instagram qui vous demande s'il n'est pas bon d'arrêter un peu plus tôt que prévu la pilule. Professeur, elle dit qu'elle envisage de débuter ses essais avec son copain en 2023, mais elle prend la pilule depuis plus de 10 ans et a peur d'être toute déréglée au moment où elle arrêtera. Qu'est-ce que vous en pensez ? La pilule pendant de nombreuses années, ça peut avoir un impact ou pas sur la fidélité, la fertilité ?
sur la fidélité peut-être, mais ça n'a, beaucoup d'études ont montré que la pilule n'a aucun impact sur la fertilité. Après, quand on arrête la pilule, il y a des femmes qui retrouvent leur cycle en un mois et d'autres en 3 mois. Mmh. Arrêter à l'avance, c'est pas forcément bien, sauf si on est à l'aise avec l'idée d'être enceinte le mois suivant, mais bien ça sûr. Peut arriver. Mmh.
Claire Schneider, dans le magazine Magique Maman, vous êtes penchée sur des méthodes un peu alternatives qui pourraient aider à avoir un enfant, à booster la fertilité, acupuncture, ostéopathie, même yoga. Il y a une vraie demande de ce côté-là, de ces, on va dire, thérapies complémentaires peut-être.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie offre qui se développe, une offre d'accompagnement bien-être au couple infertile. Donc, c'est pas prouvé que ces méthodes ont un impact direct, mais l'accompagnement, on le sait, il est primordial dans un parcours d'AMP. Prendre soin de soi, essayer de pas être trop stressé, parce qu'en effet, le stress, c'est vraiment un facteur d'infertilité. Donc, ça peut faire que du bien. Après, il s'agit pas de méthodes miracles. C'est des béquilles, elles peuvent être un bon soutien et ce serait dommage de s'en priver. Faut juste pas y investir peut-être trop d'espoir ou trop d'argent, par exemple.
Alors justement, nous sommes en ligne avec Laurence qui a été au EGG Centre de Nice, un centre pluridisciplinaire qui accompagne les femmes en désir d'enfant. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Je reprends un peu votre parcours. À la suite d'un deuil périnatal, on vous a dit que vos chances de retomber enceinte à nouveau étaient minces. Et c'est un gynécologue qui vous a envoyé dans ce centre, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Oui, un gynécologue que j'ai consulté suite à cette nouvelle.
Et qu'est-ce qu'on vous a proposé là-bas très concrètement en termes d'accompagnement, de prise en charge ? C'était pour vous toute seule, pour votre conjoint aussi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait là-bas ?
Alors moi, c'était plus dans un premier temps une démarche pour moi. Voilà, parce qu'après un an d'essais suite à un deuil périnatal, quand on n'arrivait plus à avoir d'enfants et cette nouvelle, donc j'avais besoin un petit peu de me retrouver. Donc j'ai pris rendez-vous avec la directrice, en fait, Dorothée. Et en fait, on a fait connaissance. C'est un premier rendez-vous où elle regarde un peu le parcours, un peu ce que j'ai fait. Je pense qu'elle cible un petit peu la personne. Elle m'a proposé, elle m'a présenté le centre, les différentes méthodes qui sont pratiquées avec les différentes praticiennes. Et un peu en fonction de mes attentes, elle m'a proposé ce qui lui semblait le plus judicieux pour elle.
C'était quoi pour vous, très brièvement ? C'était quoi vos alternatives ?
Alors moi... moi, pour avoir un enfant, mais des alternatives ou au niveau du centre ?
Non, au niveau du centre, vous avez bénéficié
au
de quoi ?
Au niveau du centre, alors moi, j'ai choisi les massages thérapeutiques parce que j'avais vraiment besoin de me détendre et de me déconnecter en fait, d'un milieu médical qui est un peu trop brut, trop médicalisé, où on est un peu un numéro et tout s'enchaîne. Il manque un peu de côté humain pour moi. La nutrition, naturo, ça c'était une séance. L'acupuncture aussi, j'en ai fait une séance. Après, j'ai fait un peu de psy-digitaux et surtout de la sophrologie que je connaissais en dehors. Mm-hmm. Mais sophrologie, là, par une personne qui s'occupe des femmes enceintes, il y avait quand même une différence pour moi, en fait. Donc voilà. Et après, c'est tout le soutien qu'il y a eu à côté. Il y a vraiment un suivi très sérieux. Donc,
et il faut dire quand même que vous avez eu une très bonne nouvelle, puisqu'au bout de 3 mois, vous êtes tombée enceinte, Laurence, et votre grossesse s'est bien passée. Et à présent, donc, vous êtes maman. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je reviens vers vous, professeur Oliven. Précisons que ces soins, dans la majorité des cas, viennent en complément d'un parcours d'AMP. Est-ce que vous-même, vous recommandez ces méthodes dans votre cabinet ?
Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les recommander, c'est délicat, parce que comme vous venez de le dire tout à l'heure, on manque un peu d'études scientifiques. Par exemple, prenons l'acupuncture qui a été très étudiée. Il y a des études scientifiques qui montrent que ça marche. Il y a des études scientifiques qui montrent que ça n'offre pas d'avantage. Aucune ne montre que ça diminue les chances. Donc moi, je suis totalement ouvert à tout ça. L'ostéopathie, le yoga, la sophrologie, je trouve que c'est très très bien. Avec les traitements, ça me paraît une très bonne chose.
En tout cas, tout ce qui peut baisser le stress, ça augmente la fertilité, ça on peut le dire.
Ah oui, on peut le dire.
D'ailleurs, Claire, il faut être vigilant quand même, parce que tout ce qu'on propose aux couples et aux femmes qui veulent avoir un enfant, vous avez dit, il y a un gros business qui s'est développé autour de ça. C'est pas toujours honnête, c'est pas toujours efficace, on le sait pas. Comment on fait le tri dans cette jungle, justement, d'offres comme ça, pour on va vous aider, il y a des sites, des applis, des centres. Enfin, comment on fait le tri, nous, patients, justement ?
Il faut quand même se méfier, par exemple, de ceux qui promettent la lune, et qui disent ça va marcher à coup sûr. Il faut éviter de dépenser sans compter. En fait, c'est vrai que quand on n'arrive pas à avoir un enfant, on devient quand même vulnérable et donc une proie facile. Donc, on a vu un peu tout et n'importe quoi se développer. Les pierres qui boostent la fertilité, les comprimés pour nettoyer les cellules.
Les pierres, ça ne marche pas, hein, professeur Oliven.
Bon, ça marche pour empêcher les glissements de terrain, mais pour la fertilité, non.
C'est déjà ça. Professeur, dans votre cas, vous jouez, hein, on l'a vu, aussi un rôle de psychologue, de thérapeute, de couple, même parfois de sexologue. Et vous racontez dans votre livre « Mille et un bébés » l'histoire d'Emmanuel qui avait peu de chances de tomber enceinte, mais pour qui croire au miracle a tout changé rapidement? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire?
Bah, vous savez, c'est une femme qui est venue à qui tout le monde avait dit qu'elle ne serait jamais enceinte. Mais en fait, sur le papier, effectivement, elle avait peu de chance, elle avait 40 ans, mais sur le papier, il n'y avait pas d'impossibilité. Donc c'est ce que je lui ai dit, et il se trouve la coïncidence, parce que c'est pas non plus le médecin n'est pas un magicien, on peut avoir de la chance. Donc j'ai vu que je l'ai examinée et vu qu'elle était à la bonne période pour avoir un enfant, je lui ai conseillé de faire un traitement très simple, de déclencher l'ovulation, d'avoir des rapports, elle a été enceinte, et je pense que elle a été enceinte parce qu'elle était au bon moment, mais aussi parce que je lui ai dit que c'était possible. Mmh. Et je crois qu'ouvrir cette possibilité, pour certaines femmes, c'est très important, être bienveillant. Quand toute la journée, on vous dit « ça marchera jamais, ça marchera jamais », ben vous n'y croyez pas du tout. Bien sûr. Y croire, c'est aussi un petit bout du chemin.
Ouais, vous nous avez aidé ce matin à y croire. Merci beaucoup à tous les deux. On est un peu plus clair à présent sur ce qui fonctionne ou pas pour maximiser nos chances d'avoir un bébé. Si vous êtes en désir d'enfant, je ne peux que vous conseiller le dernier numéro du magazine Magique Maman qui est dans tous les bons kiosques. Et bien sûr, également le dernier livre du professeur Oliven, « Mille et un bébés » qui vient de sortir chez Grasset.